Une région qui fait 6 départements, inégalement peuplés, 2 590 000 habitants et habitantes répartis sur 39 000 km² dans 1756 communes. Pour la traversée, du nord au sud, comptez 282 km et de l'est à l'ouest, 241. Et au milieu, évidemment, coule une rivière, le fleuve Royal. Voilà pour ces données brutes concernant, vous l'aurez deviné, notre région Centre-Val de Loire. Mais pour le reste, à part une délimitation géographique assez arbitraire, qu'est-ce qui lie un Berrichon à quelqu'un du Vendômois, une Orléanaise à une habitante de Chinon, un Dunois, ce sont les habitants de Châteaudun pour information, à un Castelroussin de Châteauroux, vous l'aurez deviné. Est-ce un nom? Est-ce une culture commune? Et si oui, laquelle? Et est-ce que, on y revient toujours, ce serait la Loire? Même si certains en sont très éloignés. En un mot commençant, qui sommes-nous, nous, habitants du Centre-Val de Loire? La lorgnette cette semaine zoome sur cette question vertigineuse. Bienvenue à tous et à toutes. Et bienvenue donc à mes invités. J'ai l'honneur de recevoir un universitaire et un représentant de l'institution régionale, le principal. Bonjour Monsieur Bonneau.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. On est ravis de vous recevoir dans les locaux de Studio Zef. Vous êtes donc le président de la région Centre-Val de Loire depuis 2007. Et donc pour vous accompagner dans cette conversation autour de l'identité de la région Centre-Val de Loire, j'ai aussi l'honneur de recevoir Dominique Breillat, professeur émérite en droit public et politologue à l'Université de Poitiers. Bonjour Monsieur Breillat.
Bonjour.
Merci donc à tous les deux d'être là. On va donc revenir sur cette région centre, ce qui l'anime, les départements qui en font partie. Tout est parti en août dernier d'un think tank breton, Bretagne Prospective, qui évoquait la possibilité de réfléchir au redécoupage des grandes régions de l'Ouest, suite notamment aussi à la réunification de la Normandie qui a très bien fonctionné lors de la réforme de 2015, et donc réfléchissez au rattachement de la Loire Atlantique avec la Bretagne historique. De là découlent des milliers de possibilités qu'on va sans doute évoquer donc durant cette heure d'émission. On va commencer, Dominique Breillat, donc avec un petit rappel rapide de comment se sont construites les régions françaises.
Alors l'idée des régions en France, c'est une idée qui est apparue surtout à la fin du 19e siècle avec les géographes, et notamment Pierre Foncin, et puis peut-être un géographe qui est encore plus connu, qui est Vidal de la Blache, parce qu'il a publié beaucoup de manuels pour les écoliers, et ces géographes avaient fait des propositions en ce qui concerne les régions. Mais ça n'avait pas abouti. Et puis, pendant la guerre de 1914, il y a eu des propositions que l'on a appelées les régions clémentelles, mais avec des perspectives économiques. Mais là encore, l'affaire n'a pas été beaucoup plus loin. Et puis, le malheur des régions, cela a été que l'idée a été lancée pendant l'occupation par le gouvernement de Vichy. Alors après, bien évidemment, vous voulez des régions comme Vichy, et donc c'était très difficile. Jusque quand même au livre de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, qui a montré l'intérêt de ces régions. Et c'est Edgar Faure, sous la 4e République, qui a lancé ces circonscriptions d'action régionale qui, par la suite, sont devenues finalement nos régions actuelles. Étant entendu que c'est le découpage qui a été opéré par les projets d'Edgar Faure qui est resté finalement jusqu'à la réforme proposée par le Premier ministre Manuel Valls. Voilà un petit peu où on en est, avec quand même, en ce qui concerne les délimitations, le fait que cette région centre-Val de Loire, eh bien, on l'a retrouvée assez souvent, mais assez souvent amputée de tel ou tel département. Vidal de la Blache,
une région à géographie variable.
Vidal de la Blache, par exemple, mais c'était une exception, avait écarté le Loiret pour le mettre avec la région parisienne. Et en ce qui concerne, en revanche, l'Eure-et-Loire, bien souvent, l'Eure-et-Loire était écarté de cette région. Et puis, interrogation en ce qui concerne les deux départements Berrichon, le Cher et l'Indre. Mais pour le reste, finalement, la vallée de la Loire était à peu près toujours respectée. L'axe avec les trois départements, je dirais, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher et Loiret.
À quoi sert une région, monsieur Bonneau ?
Une région, c'est d'abord la réunion de territoires. Si on regarde l'histoire, et merci de nous y inviter, cette région Centre-Val de Loire, en effet, elle est au carrefour de trois provinces historiques, la Touraine, l'Orléanais et le Berry. Une région, son utilité réside dans les compétences, dans les responsabilités qui sont les siennes. Et nous avons pour ces régions, en effet, un lien avec l'histoire qui est variable. Vous avez évoqué la Bretagne à l'instant. La Bretagne est là, elle n'est pas sur ses dimensions historiques, on pourra en parler.
Mais on va en parler.
La Bretagne existe. Elle fait sens a priori. Vous avez évoqué la Normandie. La Normandie fait sens. L'Occitanie fait sens. Nous avons des régions qui sont plus composites. Je pense à la région Grand Est, aujourd'hui, qui est totalement composite. Et la région Centre-Val de Loire, pour bien répondre à votre question, naît du rassemblement de trois territoires qui n'ont pas précisément des réalités partagées dans l'histoire. On a, et vous l'avez dit, professeur, on a avec le l'axe ligérien, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. On a le Sud qui a vécu sa vie plutôt tournée vers le centre de la France, et c'est le Berry. Et on a le Nord, l'Eure-et-Loire, mais aussi une partie du Loiret, qui sont bassins de Seine. Mm. Et il ne faut pas oublier que le Montargois, la partie, elle n'était pas au départ destinée, quand le dessin des départements est opéré, n'est pas destinée à rejoindre l'Orléanais. À ce moment-là, la conception, elle était autour de Nemours, autour de Montargis et autour de Sens. Et c'était un département qui était sur le Loing et la Seine qui se dessinait alors. Et donc, notre région Centre-Val de Loire, elle est composite, si on prend la dimension de l'histoire, et son utilité, c'est de rassembler les énergies, de rassembler les projets, de rassembler les acteurs dans des politiques publiques qui vont dépendre des compétences qui lui sont données. Aujourd'hui, c'est rassembler cela à l'échelle de la compétence économique, qui est très importante, à l'échelle des mobilités, très important, à l'échelle de la recherche et de l'enseignement supérieur qui constitue une entité. Et je donne un exemple de cela. Lorsque, par ignorance au niveau de l'État, de ce qu'est véritablement la dynamique d'un territoire, on laisse une région comme la région Centre-Val de Loire avec un seul CHU, un nombre de jeunes formés en médecine qui était largement insuffisant, ce que nous dénoncions, etc., et que ça dure des dizaines et des dizaines d'années, on se réveille, on est la région la plus pénalisée, même si beaucoup le sont, par le désert médical. Et corriger cela, ça a été pour la région d'obtenir du Premier ministre de l'époque, c'était Jean Castex, quand j'ai obtenu la création du second CHU sur Orléans. Et donc je dis que une région comme la nôtre, qui a aujourd'hui une vraie existence pour les acteurs économiques, etc., etc., est une région qui vit par la dynamique des politiques public, des politiques économiques qu'on a regroupées dans des pôles de compétitivité, la cosmétique, la pharmacie, les sujets de l'énergie, etc., etc. Donc, on est défini autour de cela, et c'est en avançant qu'on crée une identité qui, pour d'autres territoires, a existé depuis longtemps dans l'histoire.
Vous voulez réagir, Monsieur Bray ?
Non, je crois que c'est tout à fait exact ce que dit Monsieur le Président. Ces régions, en réalité, c'est plutôt dans l'idée d'une décentralisation extrêmement forte qu'il faut les appréhender aujourd'hui pour éviter ce centralisme mortifère que connaît la France. C'est une évidence. Mais il faut peut-être re-réfléchir sur ces régions.
Et re-réfléchir à une culture commune. Si vous deviez essayer de la définir, est-ce que vous pourriez le faire, M. Bonneau, de définir une culture commune de la région Centre-Val de Loire ?
Alors, une identité...
Ça tient à quoi ? J'allais vous poser la question plus tard, mais allez-y.
Je l'exprime, je la fais grandir, cette identité, autour d'un certain nombre d'éléments qui sont d'abord des éléments qui nous sont légués par l'histoire. Mm-hmm. Vous avez présenté la Loire comme un élément complètement structurant et vous avez mille fois raison. Mm. C'est la Loire...
Le cœur battant.
Le jardin de la France, le lieu de la royauté, mais plus anciennement, un lieu où nous avons des cathédrales extraordinaires, vraiment sublimes. Je pense à la cathédrale de Chartres, mais aussi à la cathédrale de Bourges, par exemple. Absolument. Et donc, nous avons un patrimoine. Et moi, je m'attache à mettre en avant comme élément d'identité, parce que ce sont des éléments d'attractivité, ce patrimoine historique, jardin de la France, les châteaux, les parcs et les jardins, nos cathédrales, et ce fleuve qui a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et qui est encore aujourd'hui le plus vaste patrimoine classé à l'échelle nationale. Donc je prends ces éléments-là comme des éléments structurants pour fédérer les acteurs du tourisme. Et aujourd'hui, nous avons, notamment avec le formidable élan que nous avons donné en 2019, les 500 ans de la Renaissance, la mort de Léonard de Vinci, et où nous avions à Amboise, président de la République française, président de la République italienne, ensemble, etc. etc. J'ai fait de ces éléments un ciment, un projet commun des artistes et des créateurs, des grands lieux, des sites, etc. Et donc de notre identité projetée à l'extérieur en termes de tourisme.
Et pourtant, Monsieur Bonneau, donc on en parlait juste avant de prendre l'antenne, un sondage IFOP sorti à l'automne dernier plaçait la région Centre en tant que dernière région en termes de sentiment d'attachement par ses habitants. Alors, sans aller jusqu'à la Bretagne ou la Corse, qui dépasse les 90% d'attachement, la région Centre-Val de Loire, les habitants et les habitantes de la région Centre-Val de Loire se sentent donc attachés à seulement 65%.
Oui,
donc
deux tiers. Seulement 65%, tiers, c'est en comparaison au reste. On part de zéro.
Ouais.
On part dans cette région de zéro. Il n'y a pas d'histoire.
Ouais.
Et nous sommes aujourd'hui à deux tiers des habitants qui sentent qu'ils appartiennent à quelque chose qui définit un cadre, une appartenance commune. Ça n'est pas négligeable.
C'est parce que vous êtes partis les derniers.
On est parti de très peu. Pendant longtemps, la région qui était en construction, quand on posait la question, êtes-vous d'abord dans un sentiment d'appartenance à un département, à la région était très détachée. Aujourd'hui, on fait jeu égal et parfois la région est citée en avant sur le département. Donc on est en progression. Deuxième élément dans la comparaison, la région Centre-Val de Loire, elle est située là où vous savez, c'est-à-dire dans l'hyper-proximité de l'Île-de-France. Et nous accueillons sur des départements comme le Loiret, comme l'Eure-et-Loire, un nombre important de gens qui sont des gens qui quittent l'Île-de-France au moment de la retraite, ou qui viennent vivre dans notre région tout en travaillant en Île-de-France, etc. Donc nous accueillons aussi des gens pour lesquels ça n'est pas spontanément et seulement le lieu d'identité. Mais la progression, elle est engagée, elle est extrêmement forte, et je puis vous assurer que le jeu d'acteurs qui s'opère sur le plan économique, je parlais du tourisme, sur le plan de l'enseignement supérieur, sur le plan de la recherche, sur le plan industriel, une région d'industrie, il y a 40% d'emplois industriels de plus qu'en moyenne nationale dans cette région. Cette identité, elle est appréhendée par beaucoup, beaucoup d'acteurs. Elle est en train de se forger, mais on vient d'une région qui n'avait pas d'existence historique, si ce n'est celle que j'ai rappelée.
L'attachement aux régions, Monsieur Bréa, vous qui enseignez à Poitiers avec des identités fortes, le Poitou, la Charente, tout ça, se sont construits sur des histoires beaucoup plus fortes, comme on vient de l'expliquer. Est-ce que est-ce que vous l'expliquez, cet attachement?
Oui, alors moi, je dirais quand même qu'il faudrait peut-être voir ce sondage. Est-ce que la notion d'attachement est la même dans tous les, je dirais, les lieux? Est-ce qu'elle n'est pas plus faible dans le Berry et dans l'Eure-et-Loire que précisément, et surtout depuis 2015, où il y a l'adjonction du nom Val-de-Loire, est-ce qu'elle n'est pas plus forte pour les départements qui sont situés sur le fleuve? Pour nous, c'est évident, je dirais que ça demande du temps pour qu'il y ait cet attachement. Et le Poitou-Charentes, ce n'était pas toujours une évidence. Le Poitou, oui, et encore amputé de la Vendée, et les Charentes, là encore, peut-être regardant un peu plus vers Bordeaux, voire vers l'océan, et il a fallu un très, très grand nombre d'années pour qu'on se sente un peu plus proche. Mais ce n'est pas toujours évident, et notamment avec le fait que dans un très grand nombre de cas, eh bien, vous aviez une sorte d'imbroglio en ce qui concerne l'administration. Je pense, par exemple, si vous me permettez, moi, de prendre la région, ce qui était la région Poitou-Charentes, vous aviez une cour d'appel, vous avez une cour d'appel à Poitiers, compétente pour la Vienne, pour les Deux-Sèvres, pour la Charente-Maritime et pour la Vendée, mais pas pour la Charente. On peut quand même s'interroger. Pourquoi ? Alors vous voyez que ce n'est pas aussi simple que cela. Mais cette, je dirais, cette identité, elle mériterait véritablement d'être revue. Cela veut dire que les frontières ne sont pas, ou les limites ne sont pas immuables.
Pour être compétitif, allez-y, Monsieur Bonnet.
Je voudrais ajouter, allez-y. Vous visez très juste en disant la rupture qui s'est opérée en 2015 avec l'acquisition du nom Centre Val-de-Loire. Pourquoi vous visez juste? Parce que dans la première partie de l'existence des régions, qui a quand même duré quelques décennies, Région Centre et le Val-de-Loire, la Loire, était la caractéristique des seuls pays de la Loire. Et les pays de la Loire se battaient véritablement de manière permanente contre le partage de cela. Alors que la Loire est pour les deux tiers en Centre-Val-de-Loire, on avait en pays de la Loire la captation du nom de Loire. Et je peux vous dire ça parce que j'en ai parlé avec lui, c'est de notoriété publique. Lorsque, après avoir conquis, je vous dirai comment, ce nom de Val-de-Loire pour notre région, j'ai rencontré Bruno Retailleau qui était élu président de région et qui rejoignait, on s'est vu, il m'a dit « Ah, je te précise que j'aurais été président de région quand tu as obtenu ça, je m'y serais opposé. » Et je lui ai dit « Tu serais certainement opposé comme régulièrement les pays de la Loire s'y sont opposés, mais ça aurait été extrêmement injuste parce que la Loire, elle est complètement structurante dans notre région. Je ne dis pas qu'elle n'est pas dans la région d'à côté, mais la région d'à côté, elle est définie par le littoral, par l'estuaire, et elle est beaucoup moins définie par la Loire. Les châteaux sont en grand nombre ici, etc. Et donc, en 10 ans, grâce à ce centre Val-de-Loire, nous avons, je crois, renforcé, créé un élément d'identité et nous essayons de le faire. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que le centre disparaisse du nom. Nous essayons de le faire en réunissant autour de cet élan l'ensemble des territoires, dont ceux du Sud et du Nord.
Oui, alors moi, ce que j'ajouterais peut-être, c'est que c'était très important d'ajouter Val-de-Loire, parce qu'un étranger, vous lui dites « Ah ben, j'habite la région centre, point. » Ah oui, t'es auvergnat. Bon. Donc ça me paraissait quand même quelque chose qui ne marquait pas une véritable identité. Val-de-Loire, c'est une identité. C'est une évidence. Et je crois que ça a été peut-être le seul avantage de la réforme de 2015.
Alors parlons-en, vous avez l'air chauffé à blanc sur la réforme de 2015, Dominique Breillat. quel était le projet donc, de Manuel Valls? Alors, évidemment, M. Bonneau, vous serez amené à répondre, évidemment, et vous nous livrerez les coulisses de ce qui s'est passé, puisque certains projets de cartes, je vous encourage à chercher un petit peu, étaient un peu baroques, on pourrait dire ça, je crois, cherchant à rassembler le centre, le Poitou et le Limousin, donc une région qui allait, pour, je cite, qui allait de l'estuaire de la Gironde à la grande banlieue parisienne. Donc,
oui, alors,
ça fait quand même... une sacrée surface.
Il y a eu aussi une autre possibilité qui avait été évoquée, c'était celle d'une réunion du Poitou-Charentes et des Pays de la Loire. Mmh. Ce à quoi notamment M. Hérault s'était vivement opposé. Vous voyez qu'on était un peu ballotté. L'impression, moi, que j'ai eue, alors vous me démentirez peut-être, c'est que c'était une réforme tout à fait précipitée. Il y avait une déclaration de politique générale que devait faire M. Valls. Il a fait sa déclaration de politique générale le 8 avril 2014. Eh bien, on va en effet avoir de nouvelles régions. Et avec l'argument qui me paraît tout à fait fallacieux de dire il nous faut des régions à l'échelle européenne. Et quand on pense aux régions à l'échelle européenne, aussitôt le modèle, ce sont les Länder allemands. Ça montre ne pas connaître l'Allemagne.
Absolument.
Monsieur Bonneau, si vous voulez nous livrer quelques clés pour comprendre ce qui s'est passé en 2015 et cette réforme.
C'est une réforme qui est très très mal définie dans ses objectifs, parce qu'il y a en effet une dimension géographique, mais il y a aussi et surtout peut-être une dimension institutionnelle, c'est-à-dire le rééquilibrage entre les compétences des départements et les compétences des régions. Mmh. C'est Marlise Lebranchu qui est chargée de cela. Je la rencontre en l'interrogeant sur les finalités. Au départ, on est plutôt dans une logique de nouvel équilibre de la décentralisation que dans une logique de découpage territorial. Et petit à petit, les choses partent sur un découpage territorial. Et là, vous l'avez dit, professeur, on est dans n'importe quoi. On a eu un mariage qui a été un mariage de l'Auvergne avec le centre à ce moment-là. Alors avec Rhône-Alpes, mais aussi autre hypothèse avec le centre.
Oui, d'accord.
On a eu un ensemble Limousin-Auvergne-Centre qui a existé. On a eu le centre, en effet, avec Poitou-Charentes. On a eu le centre avec Pays de la Loire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une limite qui était posée, qui était de ne pas, et vous verrez pourquoi je vous dis ça, de ne pas toucher au périmètre de ces régions. Ça a été posé comme postulat. À partir de ce moment-là, on avait une vraie difficulté, parce que la Bretagne, elle, souhaitait revenir sur le périmètre historique de la Bretagne avec la Loire Atlantique. Et les Pays de la Loire ne voulaient absolument pas que leur périmètre soit modifié. Donc ils voulaient bien venir avec la Bretagne, ils étaient d'accord pour venir avec la Bretagne, mais en entier. Et les Bretons ne voulaient pas perdre leur identité en ajoutant la Mayenne, etc.
La Sarthe, oui,
donc on était
oui.
dans un problème absolument insoluble. Ce qui a amené, et finalement ça s'est fait dans les 2-3 heures qui ont précédé les annonces par François Hollande à 21h un soir à la télé, où les derniers arbitrages ont été rendus. Et à la question que me posait le président, si tu devais rester seul avec les six... alors je vais lui préciser que moi je n'étais pas partisan des grandes régions, je respecte ceux qui le sont, mais je n'étais pas partisan des grandes régions, que Centre-Val-de-Loire est une région, vous l'avez dit, à 2 600 000 habitants, mais qui est déjà assez vaste en termes de taille. On est dans la moyenne des régions, on n'est pas en moyenne des régions pour la population, mais en surface, on est en moyenne. Et que si, au final, nous faisions une grande région, ça aurait été une région des Pays de la Loire, et du centre, ce qui mettait pour animer Orléans quand même une capitale à Nantes, ce qui est la plus grosse ville, et ça crée un éloignement par rapport au territoire. On avait une espèce de filet là qui me paraissait pas du tout faire région. Et j'avais dit à ce moment-là que ma position constante avait été de ne pas demander de modification du périmètre, et par contre que je demandais absolument absolument que dans la loi à venir, il y ait un nom pour cette région, parce que le centre ne rendait pas compte de notre potentiel, et ce fut fait avec, vous le voyez, dans la loi, on a à la fin du texte de la loi, un ajout qui dit que la région centre s'appellera désormais Centre Val-de-Loire. Je tenais à ce que ce soit dans la loi, parce que je craignais que mes amis et voisins de Pays de la Loire fassent, comme ils l'avaient fait par le passé, un barrage très 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 fort contre ça, et pour moi, pour nous, c'était complètement identifiant, et c'était une manière de faire ressortir une des valeurs, un des atouts absolument essentiels, très définissant, très déterminant de notre région, ce Val-de-Loire.
Alors moi, ce que je dirais, c'est que malheureusement, et cela depuis, je dirais, que l'on a ces évolutions des régions, c'est toujours en procédant par des additions que l'on travaille. Or, c'est là l'erreur, parce que additionner des départements pour faire des régions, ça ne fait pas des régions où il y aura une identité véritable. D'autre part, vous évoquez la question de la capitale qui aurait été à Nantes. Moi, je ne suis pas convaincu par le fait que la capitale soit obligatoirement dans la ville la plus importante. Bien au contraire. Et tout cela, pourquoi ? Mais parce que j'ai le malheur d'être spécialisé en droit comparé, de connaître ce qui se passe dans les pays étrangers. Et quand je vais en Allemagne, la Hesse, c'est quand même un Land fort. Vous avez Francfort avec la banque européenne qui est dans cette ville. Où est la capitale ? Elle n'est pas à Francfort, elle est à Wiesbaden, qui en plus est une ville très agréable que je connais bien. Vous prenez le plus grand des Länder, la Rhénanie du Nord-Westphalie. La ville la plus importante, c'est Cologne. Oui, mais la capitale est à Düsseldorf.
Mais on est en Allemagne.
Mais on est en Allemagne. Mais je reprends un autre exemple, les États-Unis. Vous prenez les 15 plus grandes villes américaines. Il n'y en a pas une seule qui est capitale d'État. Et elles arrivent très bien à vivre.
Malgré la décentralisation, la centralisation française a encore de beaux jours devant elle.
Parce qu'on a une tendance, Dominique, en France, quand on est en effet dans les régions, on dit « Ah oui, Paris, etc. » Mais on se montre jacobin dans les régions, on se montre jacobin dans les départements, on se montre jacobin dans les communautés de communes. On a cet esprit qui fait qu'on ne sait pas respecter la multiplicité des identités. Et une capitale qui n'est pas dans la ville la plus importante, ça peut être bien souvent une solution. Et pour une région comme la Bretagne, eh bien, je reprendrai le projet de Napoléon qui voulait fortifier la ville qui s'est appelée Napoléon et qui est Pontivy. Et là, les Nantais et les Rennais ne diraient plus rien.
On mettrait tout le monde d'accord.
Professeur, il me semble, on le vérifiera, mais vous avez certainement répondu. Il me semble que la loi qui définit les nouvelles régions précise la capitale de ces régions. Et que ça n'a pas été à la liberté, il l'aurait peut-être fait de la même manière, à la liberté des régions elles-mêmes de définir leur capitale, ça a été défini depuis Paris, il me
Alors,
semble.
Alors je crois que ça a été défini pour une région, la région Grand Est, où ça, dès le départ, ouais, on a dit « ce sera Strasbourg ». Parce que je crois que dans la réforme régionale, il y a des régions aberrantes. Et je dirais que ma région Nouvelle-Aquitaine est une région aberrante. Mais il y a pire, c'est la région Grand Est. Parce que s'il y a une ancienne région qui avait une identité extrêmement forte, c'est bien la région Alsace. Alors pour consoler les Alsaciens, la loi, et ça a été pour uniquement cette région, a dit « Strasbourg sera la capitale ».
En termes de capitale, Monsieur Bonneau, il y a match entre Orléans et Tours, puisque les adresses mail des enseignants comportent les deux villes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions.
Absolument, mais ça reflète les tensions qui avaient préexisté à la définition de la capitale. Là, il ne s'agit pas de la récente réforme, il s'agit de la création des régions,
d'accord,
avec une tension très très forte, une rivalité très forte qui avait été instauré entre, enfin, qui s'était manifesté entre Tours et Orléans. Orléans l'avait emporté à ce moment-là pour des raisons du rapport de force politique, mais aussi des liens politiques avec le pouvoir central. J'en dirai pas plus. Et ça c'est resté comme quelque chose de très très sensible au Tourangeau. Et si le président que je suis s'attache à être aussi présent, et je le suis, en Touraine qu'il l'est sur Orléans, c'est bien pour que nos amis et nos concitoyens de Touraine se sentent à part égale pris en compte par les politiques régionales. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement vif. Et quand il s'est agi, je parlais tout à l'heure de la création d'une deuxième faculté de médecine dans notre région, qui était absolument nécessaire, hein, on était dans une situation... Eh bien, au moment où ça a été obtenu, ça n'a pas été majoritaire, mais il y avait un certain nombre de Tourangeaux qui disaient « Eh bien, on perd un des avantages qu'on avait sur Orléans, on avait la fac de médecine, on ne sera plus les seuls à l'avoir ». Vous voyez, ceci dit, c'est en train, parce que là aussi, les universitaires travaillent ensemble, la recherche se développe, on a des pôles de compétitivité économique qui sont sur l'ensemble des pôles, le développement de l'attractivité de la Loire avec les châteaux, etc., on le fait en commun, les politiques culturelles, c'est en train tout ça mais il faut du temps pour créer ça.
Eh bien du temps, on va s'en donner 4 minutes, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour poursuivre cette conversation passionnante. A tout de suite.
Pagaie, pagaie sur cette vieille Loire. Pagaie, pagaie, t'arriveras nulle part. Hérons, errons là-haut guetteur. Vois-tu, vois-tu ailleurs. Bout de bois, beau caoutchouc. Flotte-moi, flotte-moi plus loin que chez nous. Baignoire, baignoire, tu m'as menti. Ailleurs, ailleurs, c'est comme ici. Ram, ram, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Là. Je m'en vais, mais l'eau est lasse. Chaumont, Langeais à peine en boise. Amour, cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, je veux m'en aller. Ram, ram, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et ram. Ram, rameur, ramé. On avance à rien dans ce canoë. On avance.
Pagaie sur cette vieille Loire à Chaumont-Langers, à Peine-en-Boise. C'était évidemment Alain Souchon avec Rama. Alain Souchon, un résident de la région Centre-Val de Loire. Monsieur Bonneau, j'imagine que vous le savez.
On a la chance d'avoir en termes à la fois d'écrivain, une pléiade. Vous voyez, cette année, nous avons l'année Georges Sand, qui est un personnage extraordinaire à la fois dans la littérature et puis dans la dynamique d'émancipation, dans le rapport homme-femme, etc. Je visitais il y a peu de temps à Châtillon-Coligny, je visitais la maison dans laquelle Colette a vécu. Elle a été à Saint-Sauveur, puis oui, à Châtillon-Coligny. Et on va d'ailleurs, avec le département et la commune de Châtillon-Coligny, restaurer cette maison qui est juste magnifique, dans une vieille rue de Châtillon-Coligny. Mais on a la chance. Ça a inspiré aussi beaucoup de peintres. Hein. Et on a bien évidemment Debré, que je considère comme un très, très grand peintre de la peinture contemporaine. On a des peintures de Turner sur la Loire sont juste extraordinaires. Donc vous voyez, c'est un territoire qui est un territoire. Il y avait Léonard de Vinci venu d'Italie, venu aux côtés de François Ier pour inspirer le monarque, pour faire vivre les arts et les sciences à un moment où ces domaines étaient des domaines mêlés. Et nous avions ces créateurs qui étaient à la fois très en avance sur la médecine, sur la physique, mais aussi qui étaient des artistes. Et cette impulsion-là, elle vit très, très fortement à travers les siècles pour qualifier, pour ça que je donne la place à la culture, pour trouver les identifiants de notre territoire.
Oui, alors, je pense que pour une région comme la région Centre-Val de Loire, c'est très important, et notamment, je pense que quand vous évoquez Georges Sand, c'est quelque chose peut-être finalement de plus important que Léonard de Vinci ou les autres exemples que vous avez pris, parce que vous êtes dans les marges de la région et que c'est une façon de renforcer votre identité pour montrer à ces zones périphériques, vous n'êtes pas oubliés. Et on pourrait évoquer, par exemple, dans l'Eure-et-Loire, Marcel Proust.
Et financé la maison de Tante Léonie à Illiers-Combray. Oui. Et Georges Sand, j'ai l'an passé engagé un financement important pour que cette très très belle série sur Georges Sand, qui a eu 4 millions de vues quand même, puisse être réalisée, parce que ces territoires, à travers la culture, en effet, nous les arrimons à un territoire plus vaste, Centre-Val de Loire, qui est un territoire de culture et de création.
Eh bien, on continue à en parler. Donc, à la pause, j'ai oublié de vous resituer Dominique Breillat, donc professeur émérite en droit public et politologue à l'université de Poitiers, et donc François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Je reviens donc sur cette étude, on va dire, cette proposition émise par le think tank breton Bretagne Prospective à l'été dernier, qui est un point de départ majeur pour entamer une réflexion autour de l'identité des région du Grand Ouest et donc de la région Centre-Val de Loire. Ce think tank, vous y avez participé, Dominique Breillat, proposait donc la réunification historique de la Bretagne avec la Loire Atlantique et Nantes, qui quitterait les pays de la Loire. À partir de là, tout est possible, ouvrons le champ. Que fait-on de ces quatre autres départements qui resteraient, la Vendée au sud, la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire?
Alors, moi, je vous dirais que je verrais volontiers une très grande région ligérienne. Et cette région ligérienne, justement, elle permettrait d'y mettre les départements qui pourraient apparaître oubliés, la Vendée qui n'en est pas si loin, bien évidemment, les Deux-Sèvres, la Vienne, parce que dans les Deux-Sèvres, vous avez le Thouet qui va se jeter à Saumur, dans la Vienne, vous avez la Vienne qui va se jeter dans la Loire. Je crois qu'il y a cette possibilité d'une grande région ligérienne qui la ferait. Mais je crois aussi qu'il faut peut-être revoir tout cela, et en changeant de méthode, ne plus faire de simples additions, mais au contraire prendre son temps et puis travailler avec des géographes, travailler avec des économistes parce que l'économie est devenue de plus en plus importante, travailler avec des juristes qui ne soient pas forcément que des juristes parisiens, loin de là, et de ce fait revoir ces régions et peut-être avoir le courage de redécouper à l'intérieur. Soit de redécouper à l'intérieur, soit de se préoccuper, j'allais dire, de micro-régions à l'intérieur des régions. Parce que quand vous êtes dans une région, comme on parlait à l'instant de George Sand, il y a quand même une idée peut-être de la région Centre-Val de Loire, mais il y a une idée du Berry. Et cette idée du Berry mérite que, finalement, à l'intérieur d'une région peut-être un peu plus vaste, on essaie de trouver des formules qui permettent à ces régions de conserver leur identité et surtout pour qu'elles puissent se développer, bien évidemment, beaucoup plus. Mais ça, on ne sait pas faire en France. En France, on ne sait faire que des additions. Et puis aussi réfléchir à quelque chose d'autre, moi, qui me tient à cœur, c'est ce que j'appelle les marches. Parce que les marches, c'est quoi? Ça veut dire, et je suis toujours sensible à ces zones un petit peu à la limite des régions. Quand vous êtes, prenez la région de, justement, Centre-Val de Loire. Je prendrai un exemple qui nous intéresse. En 1947, Michel Debré avait publié un ouvrage qui s'appelait « La mort de l'État républicain ». Alors, bien entendu, Michel Debré ne voulait pas de région. Bon. Mais il proposait un redécoupage des départements. Et c'était très intéressant parce qu'il n'hésitait pas à faire sans doute des réunifications, mais aussi de départements, mais aussi de prendre des éléments d'un département pour l'amener vers un autre. Et pour la région Centre-Val de Loire, eh bien, il y avait l'exemple de la région du Blanc dans le département de l'Indre, qu'il a amené vers le département le nouveau département de Poitiers. Mais en revanche, le département de la Vienne perdait le Loudunais qui, lui, allait vers l'Indre-et-Loire. Et donc, il y avait déjà cette idée que les limites n'étaient peut-être pas éternelles, qu'il faudrait peut-être essayer de les revoir. Et je pense surtout que dans une région comme la région Centre-Val de Loire, c'est peut-être aussi surtout du côté de l'Eure-et-Loire qu'il faudrait envisager ces idées de marche. Les idées de marche, c'est quoi? Avant la Révolution, au XVIIIe siècle, vous aviez les marches communes de Bretagne et de Poitou qui ont eu des représentants aux États généraux. Il avait existé les marches communes d'Anjou et de Poitou. Ça voulait dire que lorsque l'on avait deux provinces l'une à côté de l'autre, eh bien, il y avait des lieux qui, finalement, avaient besoin de travailler ensemble. Et je crois que ça, c'est extrêmement important et qu'il faut y réfléchir sur cette volonté de pouvoir travailler au niveau de la périphérie avec l'autre région qui est à côté.
L'universitaire réfléchit et propose, le politique applique et revient à un pragmatisme et un réalisme. Monsieur Bonneau, il y a un redécoupage de la région Centre-Val de Loire avec la Vendée, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire.
Sur le plan intellectuel, j'entends bien la démarche, elle est exigeante et assez profondément transformatrice. Je ne sais pas quand une fenêtre s'ouvrirait pour arriver à redécouper les départements, hériter de la Révolution, redécouper les régions, etc. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est sur des compétences qui sont complètement essentielles pour les régions. Il faut bien comprendre que la différence entre les régions et les départements, elle est dans la nature de leurs compétences au regard de la profondeur dans le temps. Les départements gèrent désormais des éléments qui sont très importants pour nos concitoyens, mais qui sont de l'ordre du quotidien. Il gère la mise en œuvre des solidarités sociales, etc., etc. Le collège. Bon. Les régions, elles élaborent, et c'est tout le problème de leur rapport avec l'État, elles élaborent des visions d'avenir. Je ne mets pas en place une politique économique, une politique d'enseignement supérieur, une politique d'aménagement du territoire, sans avoir préalablement discuté, débattu et voté une stratégie qui regarde l'avenir de moyen et de long terme. Et en cela, nous affirmons que les territoires peuvent, au moins à égalité avec l'État, et moi qui suis décentralisateur, je dis mieux que l'État, peuvent élaborer une vision de leur devenir en termes d'aménagement, d'infrastructure, en termes de pôles d'enseignement supérieur, de pôles de recherche, d'organisation, de structuration de nos acteurs économiques à travers des pôles de compétitivité, à travers des clusters, à travers une vision de l'agriculture, à travers... On a cette vision. Dans le périmètre qui nous a été donné, finalement, d'élaborer ces visions, nous avons avancé, nous avançons, nous continuons d'avancer. Et au-delà de la vision, nous mettons en place de manière très concrète les actions, les dispositifs qui nous permettent de faire région dans la vie des gens. C'est vrai pour les transports, c'est vrai pour le SUB, c'est vrai. Et donc, dans un moment d'assez grande fragilité, dans un moment de grande difficulté pour l'État à conduire des politiques publiques qui soient suffisamment rassurantes, suffisamment pour nos concitoyens, pour les mettre en énergie, je pense que les régions aujourd'hui, avec leurs imperfections, hein, je ne nie pas ce que vous avez dit, elles sont quand même vécues comme des refuges. C'est ce que j'entends. Moi, j'ai quelques années d'exercice de cette responsabilité de président de région. Je puis vous dire que les sollicitations qui sont adressées à la région, qui me sont adressées, les besoins d'échange dans plein de domaines se renforcent considérablement. Comme si se jouait à l'échelle des régions telles qu'elles sont aujourd'hui, la capacité de produire de la politique publique, de l'énergie, du travail en commun, qui finalement ne peut être produit nulle part ailleurs. Donc je suis prudent. J'ajouterai un point sur l'économie, et je vous rejoins sur l'économie et sur beaucoup d'autres sujets. Je pense aux mobilités, je pense... il faut que le lien entre les régions et ce que j'appelle, moi, les bassins de vie, c'est-à-dire les lieux concrets où sont nos concitoyens, où ils recherchent sur l'accès aux soins, où ils recherchent des réponses, il puisse y avoir une relation extrêmement forte. À cet égard, les réformes, elles sont pas toutes bonnes, mais elles sont pas non plus toutes mauvaises. La réforme qui a donné la compétence économique aux régions avec une compétence partagée avec les intercommunalités, si les intercommunalités sont à la bonne maille, ce qui n'est pas toujours le cas, si les intercommunalités sont à la bonne maille, ce partage de responsabilités est efficace.
Alors, je voudrais simplement ajouter un exemple en ce qui concerne... Tout à l'heure, je parlais de micro-régions à l'intérieur des régions. On a un très bel exemple actuellement. C'est ce qui vient de se réaliser avec la collectivité européenne d'Alsace. Et là, on a toujours intérêt à aller voir comment travaillent les Alsaciens. Parce qu'ils ont... en général, en matière d'organisation, alors parfois hérité de l'Allemagne lorsqu'il y a eu la tragique occupation, mais le droit local alsacien, mosellan, est tout à fait intéressant, mais surtout, on a cette collectivité européenne d'Alsace qui permet, je dirais, d'atténuer le ridicule de la région Grand Est. Et peut-être qu'on aurait intérêt à voir, mais pas forcément comme en Alsace, parce que chaque région a sa personnalité, ou chaque micro-région aussi a sa personnalité, comment on peut essayer de travailler ensemble.
Vous parliez Dominique Breillat et ça va me permettre de questionner Monsieur Bonneau donc sur ces micro-régions. Je voudrais qu'on s'attarde rapidement sur la notion des pays traditionnels. Il y en a partout en France, il y en a des centaines. J'ai la carte sous les yeux. On tombe sous des appellations qui sont assez magiques. La Gâtine Tourangelle, la Champagne Berrichonne, le Bouache au sud. J'ignorais totalement cette région. Est-ce que la région a intérêt à valoriser ces identités-là pour se construire une identité régionale? Comment les deux, ces petits pays, ces zones qui sont parfois assez petites, peuvent exister au sein d'une région?
J'ai choisi, en ce qui me concerne, de les reconnaître, les valoriser à des degrés divers. On a parfois des pays qui ont été constitués trop à partir d'éléments qui étaient conjoncturels, de rapports de force politiques, locaux, etc. Mais globalement, ces pays, lorsqu'ils correspondent à des territoires qui font sens pour la vie des gens, qui font sens parce que c'est leur espace de mobilité, parce que c'est leur espace d'accès à la santé, parce que c'est leur espace d'accès au savoir, parce que ça constitue des identités dans lesquelles ils peuvent travailler ensemble, ces pays sont intéressants et méritent d'être considérés. Vous savez, aujourd'hui...
On se considère très vite soloniaux ou tout ça.
Absolument.
En fait.
Absolument. Le territoire soloniaux, c'est quelque chose...
Et peu importe qu'on soit dans le Loiret ou dans le Loiret-Cher.
Absolument. Qui est totalement intéressant et qui peut faire sens, qui est d'ailleurs, quel que soit le département, confronté au même problème lorsque l'engrillagement de la Sologne se développe comme il s'est développé et que nous l'avons combattu. Et donc, je les reconnais pas simplement comme... Mais dans la région, ma politique d'aménagement et d'aide au développement des territoires passe par cela. J'ai, avec ces pays devenus PETR, parce qu'en France, il faut toujours mettre des appellations technocratiques, dans ces pays qui disaient bien, finalement, la réalité, j'ai passé ce qu'on appelle des contrats régionaux de solidarité territoriale, qui couvrent la totalité de notre région. C'est parfois avec une interco, lorsque l'interco correspond à un pays, intercommunalité, mais c'est souvent en réunissant deux ou trois intercommunalités qui, en les réunissant, correspondent à des bassins de vie. Et en général, on essaie de croiser cela avec les études de l'INSEE, les études de l'INSEE qui cherchent les interactions entre les différents moments de vie des citoyens et le territoire. Et on s'aperçoit que 80-90% d'une population travaille sur ce territoire-là, se déplace dans ce territoire-là, va chercher le lycée dans ce territoire-là, va chercher l'hôpital dans ce territoire-là. Et à ce moment-là, ça dessine un commun. Et nous avons engagé des politiques de solidarité territoriale avec des contrats qui sont des contrats sur 6 ans. On discute de la vision du territoire et la région s'engage sur un certain nombre de soutiens aux investissements, parce que je crois que nos concitoyens ont besoin de ces identités-là pour avancer.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, moi ce que je dirais, c'est que dans ce que vous évoquez, il y a l'idée de bassin de vie qui est extrêmement importante, et puis aussi, on a l'impression que maintenant, il y a une défiance de l'État à l'égard des pays, de la notion de pays. Or, les notions de pays, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de pays dans la politique des contrats de pays. J'avais fait tout un inventaire des contrats de pays en France et j'avais découvert que justement ces pays savaient casser les limites, casser les frontières. J'avais même trouvé un contrat de pays sur 3 régions différentes. Mais ça voulait dire qu'on était capable, malgré tout, avec des territoires réunis un petit peu différemment, de travailler ensemble.
Eh bien, on va glisser vers la fin de l'émission, et donc c'est le dernier prétexte. J'avais beaucoup de prétextes pour organiser cette émission et cette rencontre. C'est le dernier, votre projet, Monsieur Bonneau, donc, d'organiser une grande consultation publique pour définir un gentilé à nous, habitants de la région Centre-Val de Loire. Donc un gentilé, on rappelle, c'est le nom d'habitants d'une ville, d'un village, d'un département. Donc la région Centre-Val de Loire n'en avait pas depuis donc cette réforme de 2015. Et donc
il n'en avait pas non plus avant, parce que les habitants du centre n'étaient pas tous centraliens.
ou centristes, ça donne une connotation politique.
L'idée, vous l'avez, je crois, compris dans nos échanges,
et de construire cette identité. On part d'une identité très éclatée, très partagée, de construire cette identité autour de projets communs et les choses avancent. Vous disiez tout à l'heure que désormais, 2/3 des habitants se reconnaissent comme ayant à voir avec un territoire qui a son périmètre, qui est le centre-Val de Loire. Pour autant, il n'y avait pas de nom. Quand vous êtes breton, quand vous habitez à la Bretagne, vous êtes breton. Vous pouvez être de l'Ouest, c'est pas tout à fait les mêmes cultures, c'est pas la même culture au Nord, au Sud. Vous êtes breton. Quand vous êtes en Normandie, vous êtes normand. Ici, il n'y avait pas ce nom. Après 10 années pendant lesquelles, à partir du centre-Val de Loire, nous avons renforcé, construit cette identité avec les habitants et les acteurs, il m'est apparu nécessaire d'aller vers un nom. Et lors de mes vœux, c'était le 5 janvier de cette année, j'ai annoncé, non pas que nous allions voter pour un nom à l'échelle de la région, mais que nous allions lancer un appel à contribution. J'ai mis en place un comité du nom des habitants. Il réunit un certain nombre de personnalités. Stéphane Bern, qui est bien connu et qui habite notre région, l'Eure-et-Loire en particulier, oui, préside ce comité. Et on va, avec ce comité, extraire les 10 propositions les plus représentatives. Mm-hmm. On les mettra au vote de nos concitoyens. Ils s'exprimeront et on prendra, ça sera le premier tour, et on prendra les 3 noms arrivés en tête, on les soumettra à nouveau au vote dans un second tour. Et le 26 juin, nous révélerons quel nom les habitants de la région Centre-Val de Loire se sont donnés. Et alors ça vaudra à la fois pour eux-mêmes, on sera habitants, mais ça vaudra aussi comme qualificatif pour un certain nombre d'éléments qui ont besoin d'être qualifiés. Donc c'est un mouvement qui n'est pas de refermement, qui est une forme d'affirmation d'une fierté, d'une identité, d'une fierté, d'un projet commun. Et ça me semble aller dans le sens du renforcement de notre région.
Donc on n'en a pas fini avec les élections en Centre-Val de Loire.
Absolument.
C'est ce que vous me dites. Très bien.
Oui, mais il me semble que c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que, à partir de ce que vous dites, moi, je vois la plus grande critique que je fais à la réforme de 2014-2015. C'est-à-dire que c'était une réforme antidémocratique. On voulait des régions à l'échelle européenne. Faisons comme en Allemagne. Eh bien oui, allons-y. En Allemagne, quand vous voulez fusionner des régions, qu'est-ce que vous faites? Vous organisez un référendum. Et par exemple, en 1996, vous avez eu un référendum pour une fusion entre le Land de Berlin et le Land de Brandebourg. Berlin a voté pour, bien sûr, parce qu'il serait devenu encore plus fort. Brandebourg a voté contre. Eh bien, il n'y a pas eu de fusion, c'est tout. Et je suis persuadé que s'il y avait eu, en effet, dans notre réforme régionale des référendums, je ne crois pas qu'il y aurait eu beaucoup de fusions, sauf peut-être en Normandie. Je crois que c'est le seul cas. Et de ce fait, et vous aviez eu justement en France un cas où il y avait eu un référendum pour une fusion entre deux départements, les deux départements alsaciens, le Bas-Rhin avec Strasbourg, bien sûr, le Haut-Rhin avec Colmar, non. Et c'est à la suite de cela qu'il a été décidé, surtout qu'il n'y aurait pas de référendum. Et ça, pour moi, c'est peut-être le vice majeur de la réforme de 2014-2015.
Donc, consultation ouverte jusqu'à fin avril, c'est ça?
Absolument.
Et les tours d'élections auront lieu dans les mois de mai les mois de juin.
En mai et juin. Et le nom des habitants, le 26 juin.
Très bien. Rendez-vous donc sur le site de la région Centre pour tout à chacun proposer un nom pour les habitants du Centre Val-de-Loire. Petite question subsidiaire, si la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire nous rejoignent un jour, ils prendront notre nom, Monsieur Bonneau?
Je crois que s'ils nous rejoignent...
On refera un référendum pour...
S'ils nous rejoignent, il faudra regarder. Mais dans les noms qui remontent aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est la Loire comme élément structurant, donc nigérien, etc. etc. Mais aussi, parce que ce serait trop simple, et ce serait d'une certaine manière assez restrictif, quelque chose qui dira le centre et l'ouverture. Donc, si nos concitoyens décident ainsi, on fera en sorte que ça puisse accueillir. C'est pas un nom pour se fermer sur soi.
Et puis,
un
vous auriez encore des problèmes avec les Pays de la Loire.
Et on aurait des problèmes avec les Pays de la Loire. Voilà.
On ne cherche pas les problèmes avec les Pays de la Loire, loin de là. Merci beaucoup à vous deux. C'était passionnant. Donc, Dominique Breillat, professeur émérite en droit public à l'Université de Poitiers, et François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Merci de vous être arrêtés tous les deux dans les studios de Studio Zef. Je vous en remercie profondément. C'est la fin de cette émission. Elle est évidemment à retrouver sur le site de Studio Zef à la page de La Lorgnette. Tout de suite, c'est l'ami Christophe avec la Rock Setlist. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À très vite.